إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, nous allons terminer aujourd'hui de lire les hadiths mentionnés par Al-Hafiz al-Nawawi rahimahullah ta'ala dans son livre Les Jardins des Vertueux, au chapitre sur l'exposé de la diversité des voies de bien. Nous en sommes donc au 22e hadith qui est rapporté par Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 40 qualités, 40 vertus, dont la plus éminente est le fait de prêter une chèvre laitière à quelqu'un afin qu'il profite de son lait. Nul ne met en pratique une de ces qualités en espérant sa récompense et en croyant en ce qui lui est promis sans qu'Allah ne le fasse entrer au paradis. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. On voit à travers ce hadith qu'il fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs, qu'il donne des récompenses immenses pour des actes qui sont très simples à accomplir. On voit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il y a 40 qualités ou 40 actions. Si le musulman se pare de l'une d'entre elles, ou met en pratique l'une d'entre elles, alors il sera rétribué par Allah subhanahu wa ta'ala qui le fera rentrer au paradis en raison de sa mise en pratique de cette action. Et ce bien sûr, à condition que celle-ci soit accomplie sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on le voit dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en espérant sa récompense, c'est-à-dire en espérant la récompense de cette œuvre, la récompense qui est auprès d'Allah, et en croyant en ce qui lui est promis. C'est-à-dire si lorsque tu accomplis cette action, tu le fais pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant ce qu'il y a auprès de lui dans l'au-delà, alors tu obtiendras cette récompense et cette bonne rétribution. Et ces qualités auxquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait allusion dans ce hadith, la plus éminente d'entre elles, c'est-à-dire la plus grande et la plus immense en termes de récompense, est le fait de prêter une chèvre laitière à quelqu'un, afin que ce dernier puisse profiter du lait de cette chèvre, puis qu'ensuite, il la rende à ses propriétaires. Est-ce que ceci est quelque chose de compliqué à accomplir? Celui qui possède une chèvre laitière, ou alors une vache laitière ou autre, parmi les animaux dont on veut boire le lait. Le simple fait de laisser des musulmans profiter du lait de cette bête, s'il fait cela en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala le fera entrer au paradis. Il n'a pas donné cette bête, il l'a simplement prêtée, et les gens ont tiré profit. On voit donc à travers cela le mérite qu'il y a à prêter aux gens ce dont ils ont besoin et ce dont ils peuvent profiter. Si tu fais cela pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu seras récompensé. Et un des rapporteurs de ce hadith, qui est Hassan ibn Atiyah, rahimahullah ta'ala, a mentionné que lui et d'autres avaient essayé de dénombrer un certain nombre d'actions qui seraient moindres que le prêt d'une chèvre laitière. Ils ont donc compté parmi ces actions le fait de répondre au salam, le fait de dire « Yarhamukallah » à quelqu'un qui a éternué et qui a loué Allah, le fait de retirer un objet gênant de la route, et d'autres actes semblables. Et ils ont ainsi dénombré environ une quinzaine d'actions. Et d'autres parmi les gens de science ont dénombré ces 40 vertus. Et il se peut que les opinions divergent à leur sujet. En effet, certaines actions peuvent paraître moindres que le prêt d'une chèvre laitière, et pour d'autres, elles peuvent paraître plus éminentes. Mais quoi qu'il en soit, le bien est en réalité de se limiter à ce qu'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a mentionné qu'il y avait 40 qualités, et que la plus éminente d'entre elles était de prêter une chèvre laitière, afin que les gens profitent de son lait. Et il n'a pas mentionné ses autres qualités. Alors qu'il ne fait aucun doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en avait certainement connaissance. Mais il nous suffit de savoir que si Allah subhanahu wa ta'ala a promis une telle récompense, l'entrée au paradis, à celui qui prête une chèvre laitière pour que les gens profitent de son lait, et qu'il fait cela espérant la récompense qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que dire de celui qui fait une action plus immense encore? Il n'y a pas de doute que sa récompense sera d'autant plus grande. Il fait donc partie de la sagesse de ne pas dénombrer ses œuvres, et ce, afin de ne pas penser que le bien se limite à ses 40 qualités. Mais comme vous l'avez vu, à travers ces différents hadiths que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionnés, les voies de bien sont nombreuses et il ne convient pas aux musulmans de mépriser une quelconque bonne action, aussi minime soit-elle. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un autre hadith qui est rapporté par Adi ibn Hatim, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: protégez-vous du feu, ne serait-ce que par la moitié d'une date, c'est-à-dire la moitié d'une date donnée en aumône. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala. Et dans une autre narration, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a personne parmi vous à qui son Seigneur ne parlera sans qu'il n'y ait entre lui et son Seigneur aucun interprète. Il regardera alors à sa droite, c'est-à-dire le serviteur, et ne verra que ce qu'il a accompli, que ce qu'il a accompli comme œuvre dans ce bas monde. Il regardera à sa gauche et ne verra que ce qu'il a accompli. Il regardera alors devant lui et ne verra que le feu face à lui. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: protégez-vous donc du feu, ne serait-ce que par la moitié d'une date donnée en aumône, et celui qui ne trouve pas, c'est-à-dire celui qui ne trouve même pas une moitié de date à donner en aumône, alors par une bonne parole. On voit à travers ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour nous de nombreuses actions nous permettant d'atteindre les plus nobles des objectifs et de nous préserver du feu de l'enfer. Et parmi ces actions, il y a l'aumône. En effet, comme il est confirmé dans un autre hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'aumône éteint la mauvaise action, c'est-à-dire qu'elle l'efface, de la même manière que l'eau éteint le feu. C'est-à-dire que de la même manière que lorsque tu verses de l'eau sur le feu, celui-ci s'éteint. L'aumône, elle efface la mauvaise action. Et on a vu dans ce chapitre différents hadiths nous montrant que l'aumône ne se limite pas au fait de donner des biens matériels. Mais il y a une multitude de manières de faire l'aumône. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné l'autre narration du hadith, nous démontrant que tout homme sera pris à part au jour de la résurrection et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui parlera. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 6 de Surat al-Inshiqaq: يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. Ô homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. C'est-à-dire que tu rencontreras ton Seigneur subhanahu wa ta'ala et qu'il te demandera compte de tes œuvres. Il te demandera compte de tes efforts. Il te demandera compte de ta fatigue. Il te demandera compte de tes actions. Et ceci en réalité est une bonne nouvelle pour le croyant. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 223 de Surat al-Baqarah: وَاتَّقُوا اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez. Annonce la bonne nouvelle au croyant. Annonce la bonne nouvelle au croyant. Le croyant, lorsqu'il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala, ce sera pour lui un bien, inshallah. C'est pour cela qu'il dit « annonce la bonne nouvelle au croyant ». Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala te parlera sans qu'il n'y ait entre toi et lui d'interprète. Allah subhanahu wa ta'ala parlera à tout serviteur croyant et lui fera reconnaître ses péchés, l'ensemble de ses péchés. Il lui sera dit: tu as fait ceci et cela à tel et tel moment. Et ainsi de suite. Puis une fois que le croyant les aura reconnus et qu'il pensera alors avoir péri au vu de ce nombreux péché et de ses nombreuses mauvaises actions. Allah subhanahu wa ta'ala lui dira: je te les ai certes cachés dans ce bas monde, et aujourd'hui je te les pardonne. Allahu Akbar. Ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahum Allahu ta'ala. Je te les ai cachés dans ce bas monde, et aujourd'hui je te les pardonne. Combien de péchés fait-on sans que personne n'en ait connaissance en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Combien de péchés fait-on et Allah subhanahu wa ta'ala nous les couvre et ne les dévoile pas? Et ceci fait partie de sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Et lorsque viendra le jour de la résurrection, il complétera sur les croyants son bienfait, en pardonnant ses péchés, sans ne le sanctionner pour ceci. Ceci est donc un bienfait immense. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans ce hadith que le serviteur, lorsqu'il rencontrera son Seigneur et qu'il lui parlera, il regardera à sa droite, puis à sa gauche, il ne verra que ce qu'il a accompli, il ne verra que ses œuvres. Puis il regardera en face de lui et il ne verra que le feu de l'enfer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous adresse cette recommandation immense afin de nous préparer pour ce moment. Et il dit: protégez-vous du feu. Comment tu te protèges du feu? En faisant des bonnes actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'oriente ici vers une action qui est très simple à faire. Il dit: protégez-vous du feu, ne serait-ce que par la moitié d'une date donnée en aumône. Ou même moins que cela. Protège-toi du feu par une quelconque œuvre de bien que tu accomplis sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut parfois qu'une personne veuille faire une aumône, mais qu'elle n'ait qu'une somme minime. Par exemple, il se peut qu'il voit un mendiant devant la mosquée et qu'il voit qu'il n'ait dans ses poches que quelques centimes. Alors il s'abstient de les donner, en se disant que ceci est insignifiant et que cela n'est pas profitable. Et en réalité, ceci est une erreur. Si tu fais cela sincèrement pour Allah, même si tu ne donnes que quelques centimes, même si tu ne donnes qu'un euro, deux euros, et que tu es sincère, que tu espères la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette œuvre, cette action sera peut-être celle qui te sauvera du feu de l'enfer. Donc comme on a vu dans un hadith précédent, ne méprise rien parmi les œuvres de bien. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit: protège-toi du feu, même si ce n'est qu'avec la moitié d'une date donnée en aumône. C'est-à-dire même avec une aumône aussi minime soit-elle. Et ceci est une preuve évidente que l'aumône est une cause pour que le serviteur soit sauvé du feu, aussi moindre soit-elle. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique ensuite une autre bonne action qui nous permet de nous protéger du feu dans le cas où nous serions dans l'incapacité de donner une aumône. Si une personne ne possède rien à donner en aumône, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: s'il ne trouve pas, s'il n'a rien à donner, alors par une bonne parole. Si tu ne trouves rien à donner en aumône, alors protège-toi du feu au moins par une bonne parole. Et la bonne parole ici a un sens large. Elle englobe en premier lieu la récitation du Coran. Également, ceci englobe les formules de rappel d'Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, et ainsi de suite. Également, la bonne parole ici englobe le commandement du bien, l'interdiction du mal, l'enseignement de la science profitable. Et cela englobe toute parole par laquelle l'homme peut se rapprocher de son Seigneur. Toute parole, par exemple, qui te permet de réjouir le cœur d'un musulman. Si par une parole plaisante, tu arrives à réjouir tes parents, tu arrives à réjouir ton époux, tu arrives à réjouir ton épouse, tu arrives à réjouir tes enfants, tes proches, et ainsi de suite. Alors, ceci est une bonne action, c'est une sadaqa par laquelle tu te protèges du feu de l'enfer. D'autant plus si cette parole est accompagnée d'un visage souriant. Comme on a vu, ceci également fait partie des bonnes actions. Donc même celui qui ne possède rien, il peut accomplir des actions simples qui lui permettent de se sauver du feu et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc à travers cela, une fois de plus, que les voies du bien sont nombreuses et diversifiées et qu'elles nous ont été facilitées par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. La moitié d'une date donnée en aumône peut te sauver du feu de l'enfer. Une bonne parole que tu adresses à tes parents ou à un proche, elle peut être la cause pour que tu sois sauvé de l'enfer. Donc, ne méprise rien parmi les œuvres de bien, car tu ne sais pas les œuvres qui sont la cause de ton salut. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de tous nous préserver du feu de l'enfer et de nous compter parmi les habitants du paradis. Le 24e hadith est rapporté par Anas, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah agrée certes le serviteur qui lorsqu'il mange, le loue pour ce repas, et lorsqu'il boit, le loue pour cette boisson. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. On voit à travers ce hadith qu'il était possible d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala par des actes très faciles à accomplir, par de simples paroles. Le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala après avoir mangé, et de louer Allah subhanahu wa ta'ala après avoir bu. Ceci également fait partie des œuvres de bien par lesquelles tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'informe ici dans ce hadith que tu obtiens ainsi l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que le serviteur peut espérer de mieux que d'obtenir l'agrément de son Seigneur? Il n'y a pas de doute que ceci fait partie des plus nobles objectifs. Et on voit à travers ce hadith qu'il y a des règles de bienséance relatives au repas. C'est-à-dire qu'il y a des bons comportements à respecter lorsque tu bois et lorsque tu manges. Certains comportements sont des actes et d'autres sont des paroles. Parmi les actes, il y a le fait de manger de la main droite et de boire de la main droite. En effet, il n'est pas permis pour le musulman de boire ou de manger de sa main gauche. Ceci est haram. Celui qui boit ou qui mange de sa main gauche, il est dans le péché. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à l'homme de boire ou de manger de la main gauche. Et il nous a informé, sallallahu alayhi wa sallam, que le diable mange et boit de sa main gauche. Et un jour, un homme mangeait de sa main gauche auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a alors dit, mange de ta main droite. L'homme lui répondit, je ne peux pas. C'est-à-dire par orgueil. Comme certaines personnes parfois qui méprisent cet ordre et pense que c'est insignifiant de manger de sa main gauche, sous prétexte qu'il est habitué à cela. Alors il mange avec sa main gauche. Il lui a dit « Je ne peux pas ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors invoqué contre lui et a dit « Que tu ne puisses plus ». Alors, il est rapporté que cet homme ne pouvait plus lever sa main droite jusqu'à sa bouche. Il a donc été sanctionné pour cela, ce qui nous prouve que ceci est un péché. Donc le musulman, il doit manger de sa main droite. Et il doit habituer ses enfants dès leur plus jeune âge à manger de leur main droite. Tu ne dois pas te dire « il est petit ». Ce n'est pas grave, non. Lui, il est petit, il n'a pas de péché. S'il a 2 ans, 3 ans, qu'il vient dans l'assiette et qu'il mange avec sa main gauche, il n'aura pas de péché, la plume est levée. Mais toi, tu es dans le péché pour ne pas lui ordonner, car tu es responsable de son éducation. Il t'incombe donc de ne pas le laisser manger avec sa main gauche. Et s'il prend la nourriture avec sa main gauche, tu l'en empêches. Et tu lui ordonnes de manger de sa main droite. Ainsi, il va s'habituer à cela. Car si tu ne lui ordonnes pas et que tu le laisses grandir ainsi, qu'est-ce qu'il va se produire? Il va arriver à 7 ans, 8 ans, 9 ans, et il va toujours manger avec sa main gauche. Car ses parents ne lui ont pas interdit, car miskin, il est petit. Donc c'est toi qui es responsable de son éducation. Et tu auras des comptes à rendre pour cela si tu es négligent. Tu dois donc, dès son plus jeune âge, lui ordonner ses bons comportements, qui font partie des comportements des musulmans. Également, parmi les comportements, il y a le fait de manger ce qu'il y a devant soi. Ceci également fait partie des bons comportements à respecter au moment du repas. Et parmi les paroles légiférées au moment du repas, il y a le fait de mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de manger en disant Bismillah. Et ceci également est une obligation. De mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala au moment de boire et de manger. Et celui qui délaisse cela est dans le péché. Car si tu oublies de mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors sache que le diable se joint à toi dans ton repas. C'est-à-dire que tu partages ta nourriture et ta boisson avec le diable lorsque tu ne mentionnes pas le nom d'Allah. C'est pour cela qu'il est obligatoire pour le musulman de mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala au moment du repas. Et s'il t'arrive d'oublier, car il est possible à la personne d'oublier, que tu commences à manger sans mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala au début du repas. Alors, au moment où tu t'en rappelles, si tu t'en rappelles au cours du repas, il est légiféré pour toi de dire « Bismillah awwalahu wa akhirah », ce qui signifie au nom d'Allah du début à la fin. Également, si tu vois qu'une personne mange et oublie de dire « Bismillah », alors tu lui rappelles. Ceci fait partie du commandement du bien pour lequel tu es récompensé. Et nous avons comme exemple à ce sujet ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a vu Omar ibn Abi Salamah radiyallahu ta'ala anhu, qui était son beau-fils, le fils de son épouse, Salama, radiyallahu ta'ala anha. Lorsqu'il l'a vu manger, il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Ô garçon, mentionne le nom d'Allah, mange de ta main droite et mange ce qu'il y a devant toi. » médite sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela à Omar ibn Abi Salama alors que ce n'était qu'un enfant. Et ceci confirme ce que l'on a mentionné précédemment, qu'il est nécessaire pour le musulman d'enseigner cela à ses enfants dès leur plus jeune âge. Également, lorsque tu as terminé de manger, il est légiféré de louer Allah subhanahu wa ta'ala en disant Alhamdulillah, car cette nourriture et cette boisson que tu as consommée fait partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'avait pas facilité ce repas et ne t'avait pas facilité cette boisson, alors tu en aurais été privé. Médite sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans Surat Al-Waqi'a, au verset 63 et 64, « أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ » Voyez-vous donc ce que vous labourez? Est-ce vous qui le cultivez ou c'est nous qui le cultivons? C'est-à-dire ce que vous semez et que vous cultivez. Certes, vous plantez les graines, vous arrosez. Mais qui fait sortir cela de la terre? Qui donne la vie à ces plantes, à ces semences? Ce n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit au verset 68 au sujet de l'eau, « أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ » Et voyez-vous l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage? Ou bien est-ce nous qui l'avons fait descendre? Donc si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu que ces semences ne poussent pas et que cette eau ne descende pas, alors cette nourriture ne se serait pas trouvée entre tes mains. Il dit au sujet des cultures, au verset 65, toujours de cette même sourate, « لَوْ نَشَاءَ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا » Si nous voulions, nous le réduirions en débris. Combien de cultures ne poussent pas et sont réduites à néant? Ceci nous fait prendre conscience que lorsque ces cultures sont fructueuses, ceci est une grâce parmi les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit également subhanahu wa ta'ala au sujet de l'eau, « لَوْ نَشَاءَ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ » Si nous voulions, nous la rendrions salée. Et si elle était salée, nous ne pourrions pas la consommer, nous ne pourrions pas la boire. Puis il dit ensuite, « Pourquoi donc n'êtes-vous pas reconnaissant ?» Le musulman doit être conscient de ses bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait grâce. Aujourd'hui, on pense que la nourriture et la boisson sont des choses acquises, qui nous reviennent de droit. Et ce car, beaucoup d'entre nous vivent dans une certaine sorte d'aisance, au point d'en oublier que ces bienfaits nous ont été accordés par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc faire preuve de reconnaissance envers ton Seigneur. Et parmi les moyens d'être reconnaissant, le fait de le louer après avoir bu et après avoir mangé, en disant Alhamdulillah. Et en faisant cela, tu obtiens l'agrément de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Tu vois donc que ceci est un acte d'une grande importance que tu ne dois pas négliger également. C'est un acte immense en termes de récompense. Enfin, le 25e hadith que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné est rapporté par Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout musulman est redevable d'une aumône. On a déjà vu des hadiths semblables à ce sujet, et même des hadiths plus précis, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que nous sommes redevables d'une aumône quotidienne pour chacune de nos articulations. Et on a vu dans les hadiths précédents les différentes manières de faire l'aumône, en faisant le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, en disant subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, en ordonnant le bien, en interdisant le mal, en aidant une personne à monter sur sa monture, en lui chargeant ses bagages sur sa monture. Également, la bonne parole est une aumône. Le fait de rencontrer ton frère avec un visage souriant, c'est une aumône. Et ainsi de suite, parmi les bonnes actions que l'on a vues à travers ces différents hadiths. On a vu que il suffisait pour s'acquitter de cette aumône quotidienne d'accomplir 2 unités de prière durant la matinée, salat al-duha. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous dit: tout musulman est redevable d'une aumône. Et Abu Musa radiyallahu ta'ala anhu, il dit alors au prophète: vois-tu, s'il ne trouve pas, c'est-à-dire s'il ne trouve pas de quoi donner une aumône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors qu'il travaille de ses mains. Il en tirera ainsi profit pour lui-même et pour ensuite faire l'aumône. Il lui a donc indiqué que celui qui ne possède pas de quoi faire l'aumône, alors qu'il aille travailler, ceci sera profitable pour lui-même car il va gagner de quoi subvenir à ses besoins. Et en plus de cela, il possédera des biens qui lui permettront de faire des aumônes. Abu Musa radiyallahu ta'ala anhu lui dit ensuite: vois-tu, et s'il n'en est pas capable, s'il n'est pas capable de travailler, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors qu'il aide celui qui est dans le besoin, qu'il vienne en aide à une personne, physiquement ou selon ses capacités, et ceci sera pour lui une bonne action, une aumône par laquelle il se rapprochera d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Moussa continue alors, cherchant à connaître les différentes voies de bien, les différentes manières de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vois-tu, et s'il n'en est pas capable? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors qu'il ordonne le convenable ou le bien. Comme on a vu, le commandement du bien, l'interdiction du mal, ceci fait partie des aumônes. Donc qu'il fasse au moins cela. Mais les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils cherchaient à connaître tous les moyens de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, ce n'est pas la question d'une personne qui cherche à en accomplir le moins possible. Comme c'est le cas de certaines personnes aujourd'hui, il te demande qu'est-ce qui est légiféré, tu lui indiques, puis il te dit « mais est-ce que je ne peux pas faire cela à la place ?» Il cherche à en faire le moins possible. Ici, Abu Moussa, radiyallahu ta'ala anhu, ce n'est pas pour cela qu'il pose cette question. Il pose ces questions afin de s'imaginer toutes les situations possibles, afin de savoir en chaque situation la manière de pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'acquitter de cette aumône. Il lui dit alors, et s'il ne le fait pas, c'est-à-dire s'il n'ordonne pas le bien, que doit-il faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors qu'il s'abstienne de faire le mal, car c'est certes une aumône. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. Qu'il s'abstienne de faire le mal. Ceci est certes une aumône. C'est le minimum que tu puisses accomplir. Si tu n'es pas capable de faire le bien, que tu n'es pas capable de faire des aumônes, que tu n'es pas capable de venir en aide à ceux qui en ont besoin, si tu n'es pas capable d'ordonner le bien, d'interdire le mal, et ainsi de suite parmi les bonnes actions que l'on a vues dans ce chapitre. Au minimum, abstiens-toi de faire le mal. Ceci sera pour toi une aumône. Cesse de causer du tort aux gens. Ne porte pas atteinte à leur honneur. Ne leur porte pas atteinte physiquement, ne leur porte pas atteinte verbalement, ne cause pas de tort aux musulmans. Abstiens-toi de faire le mal, abstiens-toi des péchés. Ceci sera pour toi une aumône. Et tu vois à travers tout cela, tous ces hadiths que l'on a vus dans ce chapitre, que les moyens de faire le bien sont réellement nombreux et diversifiés et qu'ils nous ont été facilités. Malgré cela, on voit que les âmes de nombre d'entre nous sont incitatrices au mal. Et nombre de personnes sont détournées de ces voies de bien. Il se peut que l'un d'entre nous ait envie d'accomplir une bonne action, et vu à travers ces hadiths une chose facile à accomplir, et qu'il souhaite la mettre en pratique, mais il est détourné de celle-ci, et perd son temps dans des choses sans profit, des futilités, ou pire encore dans les péchés, et ainsi voit sa vie passer, et avance vers son terme, sans tirer profit de ce temps qui est précieux et qui n'en reviendra pas. Et chacun d'entre nous doit se remettre en question. Chacun d'entre nous doit savoir que ses jours sont comptés. Chacun d'entre nous doit savoir qu'il se retrouvera un jour devant son Seigneur, avec ses œuvres. Il convient donc à la personne douée de raison de s'empresser de faire le bien, de ne pas le repousser, ne retarde pas à demain. S'il y a une chose qui t'est facilitée aujourd'hui, accomplis-la aujourd'hui. Ne dis pas « demain je vais faire », non, aujourd'hui. Ne repousse pas, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain. Tu ne sais pas si demain tu en auras encore la possibilité. Donc, s'il y a une bonne action que tu veux faire, fais-la aujourd'hui, dès maintenant. Dès qu'une porte de bien t'est ouverte, et qu'une voie de bien t'est facilitée, empresse-toi de l'emprunter. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné. Au verset 48 de Surat al-Ma'idah, lorsqu'il dit « Fastabiqul khayrat » Concurrencez-vous dans les bonnes actions. Concurrencez-vous dans les bonnes actions. Empressez-vous vers le pardon de votre Seigneur. Car il se peut qu'une porte de bien te soit facilitée, et que tu ne l'emprunnes pas, que tu la délaisses, ou que tu la repousses continuellement, puis que cette porte se referme. En effet, combien de personnes ont voulu faire le bien, l'ont repoussé au lendemain, puis ne l'ont jamais mis en pratique. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Des gens ne cesseront d'être en retard jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fasse reculer. » Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à nous empresser vers le bien et accomplir des bonnes actions. Quoi qu'il en soit, le croyant doué de raison doit saisir toute occasion de faire le bien et doit veiller, autant que possible, à prendre sa part de chaque voie de bien que l'on a pu voir à travers ces hadiths et à multiplier les efforts dans ce qui lui est facilité, afin de faire partie de ceux qui s'empressent vers les bonnes actions et qui trouveront les rétributions immenses de leurs œuvres pieuses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en donnant d'une grande importance à accomplir ses œuvres sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On a donc terminé ce chapitre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui était juste provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et les erreurs ou les manquements proviennent de moi ou du diable et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner tout comme je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me faciliter ainsi qu'à vous toute œuvre et toute action qui mène à son agrément et qu'il nous aide à nous rappeler de lui, à être reconnaissant envers lui et à l'adorer de la meilleure manière. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.